allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bien le bonjour les amis, soyez les bienvenus à la table des bons vivants, votre rendez-vous cuisine et alimentation du samedi. Nous sommes là pour bien manger et comprendre ce que nous mangeons jusqu'à midi et demi. Alors depuis toujours, il aime mélanger la tradition et l'innovation en cuisine. Derrière le micro, à travers les ondes, le chef Yves Candebord est avec nous. Bonjour chef.
Bonjour Laurent.
Rouge, blanc ou rosé, il nous en fait boire de toutes les couleurs chaque samedi. Olivier Pouls est à nos côtés. Bonjour Olivier.
Bonjour mon cher Laurent, bonjour tout le monde.
Marion Sauveur nous rejoindra pour son journal de la cuisine et puis nous accueillerons un docteur à la table des bons vivants. Nous ne sommes pas malades, hein, rassurez-vous. Gérard Paco nous parlera de sa méthode pour repenser nos repas, sans oublier la chronique de Jean-Luc Petit-Renaud. Avec les douces températures, vous avez remarqué des dernières semaines, elles pointent le bout de leur nez. Les asperges vertes s'invitent à notre table. Comédienne populaire à la télévision, au cinéma et au théâtre, Valérie Bonneton sera notre invitée. Elle partagera avec nous le dessert du jour. Les amis, écoutez ça, une belle tarte aux pommes de Normandie. Et ben voilà, à table et bon app. Alors, vous le savez, avant de nous promener sur un de nos marchés, petit rituel, quel est votre goût de la semaine, les amis, à la maison? Pensez-y, quel est le goût qui a marqué votre semaine? On va commencer par vous, Yves Candebord.
Oui, moi, c'est un vinaigre, Laurent. C'est un vinaigre d'agrumes, le calamansi. Le calamansi, c'est un petit agrume entre la clémentine citron. Au départ, c'est un arbre d'ornement qui fait des fruits toute l'année. Et ils font un vinaigre avec qui est magnifique. Parce qu'il y a ce côté, bien sûr, très acidifié du vinaigre qui relève énormément les plats, mais avec un fruité et une délicatesse incroyable.
Et vous en mettez où alors?
Alors, on l'utilise, bien sûr, sur des vinaigrettes de façon assez classique. Ouais. Et en ce moment, avec les premières asperges, une petite vinaigrette tiède au vinaigre de calamansi sur les asperges, Ça met un peps à l'asperge, ça l'accompagne, ça la dorlote et elle est sublime.
Vous teasez, comme on dit, parce qu'on va parler des asperges vertes dans un instant. Olivier Pouls, votre goût de la semaine avec votre anniversaire J+2.
Oui, j'étais en vadrouille, figurez-vous, et je me suis arrêté dans un coin totalement perdu sur les hauteurs de Beaune, à Bligny-sur-Ouche, dans une ferme auberge qui s'appelle la ferme de la Ruchotte.
Ah oui.
Alors, elle est tenue par un certain Fred Ménager, un cuisinier aguerri qui a travaillé aux côtés d'Alain Chapelle, qui a décidé, il y a une quinzaine d'années, de s'installer là. L'un de ses créneaux, c'est d'avoir remis en élevage des poules de race ancienne. Alors, il les sert à sa table, il cuisine aussi les légumes de son jardin. C'est une ferme-auberge magnifique, avec un vrai chef derrière les fourneaux. Et les produits sont extraordinaires.
Et on mange bien, il y a les volailles qui gambadent autour de nous quand on
Absolument.
Est à table.
Allez-vous c'est magnifique. Perdre à Bligny-sur-Ouche, ça se mérite un peu, mais quelle adresse.
Découvrons nos campagnes. Mon goût de la semaine, le voici dans un petit pot à confiture. Je vous vois plisser les yeux, Yves Candebord. C'est la confiture de groseille de Bar-le-Duc. Vous connaissez ça?
Oui, tout à fait.
C'est de la confiture de groseille épépinée à la plume d'oie. On fait ça depuis le 14e siècle. C'est la famille du Triez. Alors, le petit
pot. C'est à l'époque, on n'avait pas la télé, en fait.
On n'avait pas la télé, on s'occupait pendant les veillées du soir, exactement. Épépinée à la plume d'oie. Alors, c'est pas une gelée, on a la texture de la confiture avec la peau encore de la groseille. Il n'y a plus les pépins. J'adore ça. Tiens, goûtez, Yves Candebord. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur un petit, une petite pomme au four qui sort du four, c'est génial. C'est la famille du Triez qui fait ça. Alors, ça s'appelle le caviar de bar et on comprend pourquoi, parce que ce petit pot, ça coûte 30 euros quand même. Hein. Donc, on n'en met pas partout. Hein.
Et quand on le goûte, on comprend pourquoi ça coûte 30 euros. Mais c'est vrai que c'est pas une confiture, c'est plus un coulis.
Exactement. Ouais.
C'est un coulis qu'on dépose à délicatesse sur une belle faisselle, ça doit être merveilleux.
Ah bah oui, une belle faisselle, de brebis ou de chèvre. Pas une fessée, une faisselle, Olivier Pouls.
On est d'accord, hein.
En route pour le marché à présent, nous avons promené le micro d'Europe 1 à votre rencontre à Mouton Duvernay, dans le 14e arrondissement de Paris. Alors, Île-de-France, Touraine, Normandie, c'est un marché qui met à l'honneur des producteurs locaux. Et ça vous inspire pour ce week-end?
Voilà, j'ai acheté des oranges sanguines. Et puis là-dessous, il y a un truc, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, des endives rouges qui sont délicieuses en salade.
Des carottes, du céleri, des oignons, des pommes.
Et puis, on va prendre deux poireaux.
Des pommes de terre aussi.
Et la pomme de terre, c'est Tiane, vous l'appelez?
Oui, c'est Tiane.
Puis, je vais prendre ces pommes de terre, parce que ces pommes de terre, il n'y a pas meilleur. Je retrouve le goût de la pomme de terre de mon enfance. Quand j'ai la chance de tomber sur un maraîcher de la région parisienne, et je vois qu'il ne met pas d'engrais, parce que ces légumes, ils ont une taille normale.
Je viens d'acheter de la comice, ça vient de la Tour.
Des poireaux, butternut et pommes.
On a envie d'avoir des recettes réconfortantes, donc là, moi, ma spécialité, et notamment ce que je vais acheter aujourd'hui, c'est faire un bœuf carotte.
Quelle bonne idée, le bœuf carotte, ça c'est vraiment le plat de saison. On nous annonce une vague de froid, j'en parlais avec Laurent Cabrol, le froid revient, le bœuf carotte pour lutter contre le froid, il n'y a pas mieux Yves Candebord.
Non, il n'y a pas mieux, c'est vraiment des plats traditionnels, c'est des plats qui font partie de notre histoire, c'est chaleureux, c'est des plats de partage, des plats familiaux. il faut cuisiner.
C'est un plat du week-end, ça, hein, le bœuf carotte, Olivier Pouls, vous aimez ça aussi.
Moi, j'aime le bœuf bourguignon aussi, dans une autre version, et même un bon coco-vin.
Un bon coco-vin, c'est vrai que ça, c'est quelque chose
qu'on a oublié.
On le fait moins.
C'est tellement facile à faire, mais il faut une bonne poule, justement. Alors, on parlait de la ferme de la Ruchotte, il faut une poule
qui a quand même un peu de muscle. Ferme, bien ferme. Je vous le disais, la météo quasi printanière qu'on a eue ces derniers temps a poussé les asperges vertes à sortir de terre. Et bien, on va prendre la route avec Marion Sauveur pour aller au pied des Alpilles, une belle terre d'asperges récoltée et cuisiner l'asperge verte. Vous êtes bien sur Europe 1, les amis, ne bougez pas, nous sommes là jusqu'à midi et demi. A tout de suite.
Jusqu'à midi et demi, vous êtes confortablement installés à la table des bons vivants et vous saurez tout sur les produits de saison, comme les asperges vertes qui commencent à sortir, Laurent.
Absolument, Justine. L'actualité des champs, ce sont les asperges vertes qui pointent le bout de leur tige. Alors c'est vrai qu'avec la météo de ces dernières semaines, elles ont un peu d'avance, une semaine d'avance on va dire. Elles se trouvent déjà sur nos étals, surtout dans le midi. Les plus précoces évidemment, ce sont les asperges vertes. Fines, tendues, elles donnent un petit air de printemps avant l'heure. Il y a ce petit côté herbacé, on aime l'asperge verte, Olivier Pouls.
Ce que je voudrais dire, c'est qu'une fois qu'on voit les premières asperges vertes sur les marchés, on sait que ça y est, tac,
ça y est.
L'hiver est enfin en train de partir. Dès que l'asperge arrive, c'est la promesse de tout ce qui va arriver, les fraises.
C'est elle qui annonce le printemps.
C'est vraiment le légume fugace de printemps dont il faut
surtout
profiter.
Que ça ne dure pas très longtemps, la saison d'asperges.
2-3 mois à peine. Alors tiens, on va rappeler à nos auditeurs les couleurs. Il y a de la blanche, il y a de la violette, il y a de la verte, il y a même de la pourpre. Et à la base, c'est la même asperge.
Bah oui, en fait, ce qui se passe, c'est que la blanche, on la bute. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas la lumière du soleil, donc elle ne fait pas de chlorophylle. Alors que l'asperge verte, elle pousse hors de terre. Ouais, elle voit de la lumière, elle fait de la chlorophylle. Et après, il y a évidemment plusieurs
On a sélectionné des variétés pour avoir
variétés,
de la verte.
Notamment
maintenant.
De la pourpre, là, qui est une variété particulière qu'on ne trouve pas facilement.
Oui, il y a Didier Ferrin qui fait ça à Malemort, mais on va aller dans les Alpilles dans un instant, la récolter avec Marion Sauveur. C'est vrai que la France est une belle terre d'asperges. On a beaucoup de sols sablonneux, Yves Candebord, ça qu'elle aime, l'asperge.
Pour être un peu de chauviniste, je vais vous parler, moi, de l'asperge des Landes.
Bah, évidemment.
Voilà, les sols sableux des Landes, la blanche nous font des asperges magnifiques. Il faut savoir que pour l'asperge blanche, quand même, il y a une variété spécifique. C'est vrai que la blanche, si on la laisse sortir, on la laisse pousser avec le soleil. Eh bien, elle devient verte, mais c'est une variété particulière aussi pour faire de la blanche. Après, on a les, mais sur le sud-est, l'asperge de Pertuis, l'asperge de Camargue, qui sont des asperges qui ont des typicités très particulières.
L'asperge de Loris, dans le Luberon.
De Loris. Et ce qu'il faut savoir, c'est de savoir les travailler différents aussi selon leur calibre. Laurent, c'est important ça. Une asperge, ce n'est pas obligatoirement cuit dans de l'eau.
Exactement.
Une asperge, quand c'est un calibre, c'est vrai, assez important, on peut la cuire soit à la vapeur ou dans une eau salée. Mais n'ayez pas peur, quand vous avez des petits calibres, comme on a ce matin, de juste les sauter. Un aller-retour à l'huile d'olive avec une pointe de sel, une pointe de poivre et on a des résultats merveilleux.
Et ben on va vous parler justement des recettes que vous pourrez faire dans les semaines qui viennent avec les asperges. On vous emmène donc la récolter avec Marion Sauveur. Nous allons dans les Bouches-du-Rhône, au bord de la Durance et nous allons chez Nadège Taton qui est productrice et maraîchère et qui récolte les asperges. Taton l'asperge avec Nadège et Marion.
On est dans une serre pour couvrir nos asperges pour qu'elles arrivent un petit peu plus tôt que le plein champ. Elles sortent du sol, contrairement à la blanche qui reste sous terre et donc qui ne voit pas le jour, qui ne fait pas sa photosynthèse. Cet hiver, on a eu beaucoup d'eau et pas assez de froid. Et du coup, le sol s'est réchauffé et la plante ne nous sort pas de gros calibre.
Comment on fait pour la choisir ? Faut qu'elle ait un talon pas trop sec, faut pas qu'elle soit flétrie, faut qu'elle soit ferme en main.
Et au niveau de la conservation, comment ça se passe ?
Si elle perd de l'humidité, elle devient filandreuse. Donc il faut toujours lui apporter de l'eau. Donc on mouille bien le torchon, on le met dans le bac à légumes et ça se conserve 5-6 jours.
On en coupe une ? Goûtez, c'est super bon cru.
C'est délicieux.
Il y a un petit goût de petit pois, noisette. Elles sont tendres.
Très tendres.
On peut la manger pratiquement entière. Il y a juste cette partie-là, 1 ou 2 centimètres qu'on ne mange pas. Il n'y a pas besoin de l'éplucher, la verte.
Ça, c'est plus pratique.
À gain de temps.
Et oui, je vous reconnais bien là, un petit gain de temps pour aller en cuisine. Ah voilà, Olivier Pouls croque l'asperge verte. Mais elles sont magnifiques, d'une fraîcheur absolue. Écoutez, tiens, la fraîcheur de l'asperge. Voilà, ça c'est Yves Candebord qui frotte les asperges entre les mains. Il n'y a pas meilleur signe de fraîcheur pour savoir si elle est fraîche quand elle crisse comme ça.
Totalement, et ce qui est très important, voilà, c'est quand on voit le pied, le bout du pied, il faut vraiment qu'il ait, voilà, faut que ce soit une couleur qui soit encore assez vive. Si c'est très terne, c'est qu'elle a été ramassée depuis très longtemps.
Et là,
il
faut couper une bonne partie.
Il n'y a plus d'humidité Et la dame, elle a totalement raison. Ça devient très filandreux.
Exactement. Comment vous les cuisinez, vous, à Saint-Germain-des-Prés, Yves Condebord ?
Alors, il y a deux façons, monsieur. On cuisine différemment, je dirais, la blanche que la verte. Déjà, une chose très importante, c'est que la verte, quand on est sur des tout petits calibres, c'est vrai que ce n'est pas la peine de l'éplucher.
Oui.
Mais sur des calibres un peu plus importants, il faut les éplucher juste à un tiers. Tandis que la blanche, il faut l'éplucher complètement.
Complètement, ouais,
voilà.
Ouais.
Moi, ce que j'adore, c'est les rôtir. Voilà. Des petits calibres comme ça, j'adore les rôtir. Vous savez, on les passe juste très rapidement avec un petit beurre mousseux. On casse un œuf dedans.
Ah oui,
on fait un genre de brouillard de malfaite, en fin
oui,
de compte.
Oui, c'est
voilà.
Ça, c'est superbe.
Et en déposant dessus, après, juste du cerfeuil, un petit zeste de citron.
Ah oui.
Et on a une assiette très simple, très facile à faire et remarquable.
C'est ce que je vous ai fait, je les ai rôtis tout simplement en fricassé, comme ça, et un petit peu de parmesan râpé par-dessus. Je trouve voilà. Que c'est un bel accord aussi.
C'est
hein.
Un très très bel accord.
Ça marche bien ça. Et ça, on peut les utiliser dans un risotto. J'ai fait un risotto hier soir à la maison et je me suis rendu compte que les asperges vertes, j'avais tendance à les cuire à l'eau, elles perdent leur goût. Et rôtis comme ça, vous les mettez dans un risotto avec du parmesan et un bon jambon espagnol, ça relève tout ça, ça vous fait
ça
un plat unique.
Ça concentre les goûts.
Ah ouais, c'est super. Qu'est-ce qu'on boit avec l'asperge verte? Parce que c'est compliqué à accorder ça, Olivier Pouls,
bah oui,
non?
Parce que c'est très végétal. Alors j'ai beaucoup cherché. Et comme j'ai pas envie de boire de l'eau avec mes asperges, j'ai fini par trouver deux solutions qui me vont assez bien. Alors les muscats secs d'Alsace, ça marche très bien sur l'asperge. Et des sauvignons très secs, là aussi, de Touraine, ça marche également.
Oh bah il est bon, ils ont réponse à tout. Yves Condebord, Olivier Pouls sont bien attablés à la table des bons vivants. Elle arrive dans un instant, Marion Sauveur, qui revient des Alpes. Justement, elle nous rejoint à la table pour son journal de la cuisine, le seul journal qui se mange. Bon samedi matin, les amis, sur Europe 1.
Comme tous les samedis, vous écoutez la table des bons vivants, votre rendez-vous gourmand sur Europe 1 avec Laurent Mariotte et toute son équipe.
La table est mise depuis 11h les amis et nous continuons de faire tourner les assiettes jusqu'à midi et demi. Avant de retrouver le camarade Jean-Luc Petit-Renaud, c'est l'heure de retrouver le journal de la cuisine de Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour.
Bonjour Marion.
Marion qui est allée récolter l'asperge verte dans le Luberon et qui est avec nous. Alors quoi de neuf dans nos assiettes cette semaine? Voici les titres du journal de la cuisine.
8000 tonnes de denrées alimentaires, c'est ce qu'espèrent récolter jusqu'à ce soir les Restos du Cœur. Ils sont en pleine collecte nationale de printemps. Omnivore, le festival de la jeune cuisine débute demain à Paris et cette année, l'invité d'honneur, ce sont les Pays-Bas. Chocolatine ou pain au chocolat, telle est la question. Vous saurez dans quelques instants comment la majorité des Français appellent cette viennoiserie.
Petit clin d'œil, effectivement, nous sommes dans le studio Coluche à Europe 1 et depuis hier et jusqu'à ce soir, les Restos du Cœur se mobilisent, Marion.
C'est l'heure de la collecte nationale. L'association créée par Coluche il y a plus de 30 ans espère rassembler 8000 tonnes de denrées alimentaires. Elles permettront de préparer pendant le printemps et l'été 8 millions de repas pour les plus démunis. Les Restos du Cœur sont présents dans 7000 magasins partout en France jusqu'à ce soir et ils ont besoin de vos dons.
Donnons.
Particulièrement donc de produits alimentaires non périssables comme des conserves de viande, de poisson, de légumes, de fruits, mais aussi du riz, des légumes secs, des confitures, des compotes ou encore du chocolat. Le CD et le DVD du concert des Enfoirés sont aussi en vente depuis ce matin.
Merci ma poule. Alors les femmes mangent des légumes et les hommes de la viande et des pâtes.
Et ce ne sont pas que des clichés Laurent, mais les résultats très sérieux d'une étude Kantar World Panel. Les hommes auraient tendance à favoriser une alimentation à base de produits céréaliers, de fromage, de viande, de charcuterie, quand les femmes préfèrent les yaourts, les compotes et les soupes.
Ce sont des
confirme.
Côté protéines, les femmes opteraient plus pour du jambon blanc, du veau, du poisson, des œufs et de la volaille. Et les hommes pour un tartare ou une entrecôte.
Ils ont sondé Olivier Pouls. Oui.
Des repas, vous allez en parler dans quelques instants, Laurent. Mais pas de ce que l'on mange, mais de comment nous mangeons.
Oui.
Ce sera avec votre invité, le docteur Paco.
Exactement. 140 chefs cuisiniers, pâtissiers, artisans et vignerons ont rendez-vous à partir de demain à Paris.
Oui, au festival Omnivore. Ça se passe à la Maison de la Mutualité qui est transformée pendant 3 jours en cuisine géante avec 6 scènes où les chefs se succéderont pour des démonstrations culinaires. Alors vous y trouverez notamment côté salé les étoilés Adine Grattard, Emmanuel Renaud et Alexandre Mazia. Côté sucré Claire Etzler, Pierre Marcolini, Claire Damon. Et cette année les Pays-Bas sont à l'honneur. Ce sont donc des chefs néerlandais qui réaliseront les dîners gastronomiques.
Alors grand débat, grande question, vous dites pain au chocolat ou chocolatine?
Alors voici le résultat d'une enquête IFOP commandée par la Fédération des entreprises de boulangerie. Les Français sont 84% à appeler la viennoiserie pain au chocolat.
Bah oui.
Et oui, la chocolatine est surtout utilisée dans le sud-ouest, un résultat qui devrait faire donc plaisir au chef de l'Élysée, Guillaume Gomez, qui depuis quelques mois a entamé une vraie campagne sur les réseaux sociaux en faveur du pain au chocolat.
Il a gagné, Guillaume. Chocolatine ou pain au chocolat, Yves Courdebord, alors ?
Alors, bien sûr, moi, c'est chocolatine, mais le plus important, c'est pas ça. Il faut que ce soit bon.
Exactement. Oui. Une bonne pâte feuilletée, un bon chocolat
à
l'intérieur.
Et dans ma Belgique natale, on dit couc au chocolat.
Couc au chocolat. Ah, c'est drôle, ça.
Il faut toujours que vous fassiez les intéressants.
On se demande souvent ici ce que nous mangeons. Et bien aujourd'hui, on va plutôt se demander comment manger, aller au marché, faire la cuisine, mais aussi prendre le temps de s'installer à table et de partager ensemble un repas comme on le fait chaque samedi ici. Et bien c'est ce que nous allons faire avec le docteur Paco, médecin et auteur reconnu qui vient de sortir son nouveau livre « Alimentation, il faut tout changer » paru aux éditions L'Archipel. Bonjour Gérard Paco.
Bonjour monsieur.
Alors votre livre est une bible, hein, Gérard, qui recense toutes les problématiques autour de l'alimentation d'aujourd'hui. Malbouffe, surabondance, gaspillage, connaissances scientifiques. Vous dites qu'il faut tout changer dans notre alimentation. Qu'est-ce qu'il faut changer en priorité alors ?
Alors, le premier, la répartition entre le végétal et l'animal.
C'est
moi,
ce qu'on disait.
Moi, je propose 85-15.
Ah oui, carrément.
Oui, carrément. Ça veut dire diminuer l'animal. On peut diminuer l'animal, on aurait intérêt à le faire.
C'est une tendance qui est déjà en cours.
C'est une tendance qui est en cours. Il y a des raisons économiques pour le faire, mais on ne va pas s'apesantir là-dessus parce que c'est un problème d'organisation mondiale. Ceci dit, c'est bon aussi pour la santé, je pense. Deuxièmement, diminuer les sucres, tous les sucres raffinés, éliminer. Alors là, il y a eu un scandale qui vient des États-Unis. On nous a dit qu'il fallait manger du sucre et remplacer le gras par le sucre. C'est le contraire qu'il faut faire. C'est le contraire qu'il faut faire. C'est une escroquerie. Le sucre fait faire du gras. Le sucre a créé l'obésité dans le monde. Il faut diminuer, supprimer les sucres raffinés, diminuer les quantités d'amidon qui sont que du sucre et remplacer par du gras, contrairement à ce qu'on croit,
le
régime gras,
enfin,
mais tous les gras sont bons.
Mais nous faisons partie de l'amicale du gras
mais
ici.
Mais vous avez raison,
moi,
je propose une nouvelle
longtemps.
Formule OMG, on mange gras.
Oui.
Encore mieux.
Président.
Encore mieux, ORMG, on remange gras, parce qu'on ne voulait plus manger gras. On continue en vitesse. Voilà. Moins de viande, on l'a dit dans le 95, moins de lait. Je ne pense pas que le lait, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le lait et les laitages proches du lait, parce que je ne pense pas, malgré ce qu'on raconte le CNIEL, qui est le lobby du lait, qui défend le lait, contrairement à ce qu'on dit, l'histoire du calcium, ça ne se défend pas très très bien. Dans les pays où on boit énormément de lait, il y a plus d'ostéoporose que dans les pays où on en boit moins.
Oui.
C'est quand même assez étrange. Bon. Et puis surtout, supprimer tous les produits ultra transformés.
Ah, ça, on est
d'accord. Nous sommes dans un monde de fous, où on fait de l'aliment artificiel, alors qu'on a des aliments naturels, locaux et frais, qu'on devrait absolument privilégier. Il faut supprimer les aliments ultra transformés, les boycotter, et surtout boycotter les produits allégés, qui ne servent strictement à rien, qui coûtent cher.
Ils allègent notre porte-monnaie surtout.
Ils allègent le porte-monnaie, et en plus c'est une escroquerie, ils enlèvent la graisse pour mettre du sucre à la place, et ils revendent la graisse. C'est quelque chose de fou. Et enfin, moins d'alcool quand même, parce que l'alcool, faut en dire un mot. Ouais. Même si le vin, c'est bon.
Je vous aimais bien pourtant.
avec modération.
Je le mets à la fin parce que je sais que bon, il faut le faire passer.
Mais bien sûr.
Il faut le faire passer en douce.
Eh bien, docteur Gérard Paco, vous avez votre ronde serviette à la table des bons vivants. On vous adopte tout de suite. Il faut tout changer. C'est le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions L'Archipel. On en reparle dans un instant. On va parler vraiment, là, sérieusement, de l'importance de la qualité de nos repas et du temps passé à table. Retrouvons-nous ensemble, en famille, autour de belles assiettes faites maison. On revient avec Gérard Paco sur Europe 1. Bon samedi matin, les amis.
Europe 1.
Laurent Mariotte vous invite jusqu'à midi et demi à la table des bons vivants. Et n'hésitez surtout pas à participer grâce au répondeur d'Europe 1, le 39-21, 50 centimes la minute. On vous attend.
Merci de nous retrouver à la table des bons vivants. Nous parlons de la qualité de nos repas et de l'importance du temps passé à table avec notre invité, le docteur Gérard Paco, auteur du livre « Alimentation, il faut tout changer, adopter les bons réflexes », c'est paru aux éditions L'Archipel. Tiens, petite devinette, docteur Olivier Pouls et Yves Candebord, de quoi parle un Français quand il est à table ?
De manger.
Voilà.
Du repas d'après.
Du repas d'après. Docteur, vous êtes d'accord avec ça ?
Je suis d'accord, mais on peut aussi parler d'autre chose. Le repas, c'est aussi un lieu tellement de convivialité. Il faut se rappeler que le mot compagnon, il est fait à partir de cumpane, celui avec qui on partage le pain.
Donc, les copains.
Les copains, voilà. On est avec des copains ou des amis. Et donc, on peut parler de tout. Et c'est vrai qu'on va échanger beaucoup de choses autour d'un repas sur notre vie, sur nos amours, sur nos besoins, sur nos envies, sur nos désirs. On va pouvoir vraiment Se retrouver et puis calmer l'angoisse qui nous vient du travail, qui souvent nous pèse. Lâcher un peu les choses. Le repas, c'est un lieu où on lâche et où on se régale et où on va jouir de son alimentation.
On s'en sort bien. Il y a une étude de l'OCDE qui estime que les Français passent 2h20 à table par jour en moyenne. Ça prend en compte les repas du week-end et les repas de fête. Alors, sur la page Facebook du groupe Les Bons
Vivants... Record du monde,
on a, oui. On a posé la question à nos auditeurs. Combien de temps passez-vous à table par jour hors week-end? 52% de nos auditeurs sur le groupe Facebook des Bons Vivants disent 1 heure environ, 33% 2 heures. On a fait la moyenne. En gros, nos auditeurs passent 1h30 à table par jour. C'est bien ça, docteur?
C'est très très bien et il faudrait surtout pas que cela diminue. Ce qui nous vient, encore une fois, les États-Unis ont été terribles pour ça.
Le fast-food.
Oui, le fast-food, et surtout ce qu'on a expliqué aux femmes. On a dit aux femmes, vous travaillez, il ne faut plus que vous fassiez de cuisine. Donc, on va vous faire des plats tout préparés. Ça, c'est l'ultra-transformation. On a été vers les aliments ultra-transformés, tout prêts à mettre dans le four ou dans le micro-ondes. Et on a réduit à la fois le temps de cuisine et le temps de repas. Et ça, c'est terrible. C'est quelque chose qui gagne tous les pays du monde. Et je branche ça sur les produits ultra-transformés. C'est parce que c'est à cause des produits ultra-transformés qu'on peut diminuer le temps du repas.
Et il y a eu une rupture de la transmission avec 68 aussi, où on a dit aux filles, tu ne vas pas cuisiner, c'est un truc de femme à la maison.
C'est un truc de femme à la maison.
Alors, vous dites dans votre livre que ça a une incidence, évidemment, aussi sur les comportements alimentaires de nos enfants et sur la santé, la qualité de nos repas, docteur.
Évidemment. Vous savez, on nous abreuve avec des notions de vitamines, d'oligo-éléments ou de calories, etc. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien parce que les gens ne peuvent pas. Vous n'allez pas mesurer au moment où vous mangez les morceaux de calories, les morceaux de gras ou les morceaux de vitamine C que vous avalez. C'est pas possible. Puis surtout, c'est absurde. Ça ne sert à rien. Il faut au contraire se libérer complètement de ces notions chiffrées pour aller vers le plaisir de manger. Alors, à la fois, regardez-moi, là, j'ai des asperges avec du parmesan. C'est super, j'adore ça.
Le plaisir de manger, c'est manger frais.
C'est manger frais.
Manger sain, c'est manger frais.
Voilà. Gérard Pacaud, vous dites dans votre livre quelques chiffres quand même. Vous dites que quand on passe du temps en famille avec nos enfants et nos ados, 12% de risque en moins d'être en surpoids, 20% de risque en moins de manger des aliments néfastes pour la santé, 33% de risque en moins de subir un trouble alimentaire. C'est une vraie incidence quand même.
C'est une vraie incidence, oui. Mais si vous voulez, il faut apprendre ça à l'école. Dès les premières classes de l'école, il devrait y avoir des cours d'alimentation, des cours de bien manger, des cours pour expliquer aux enfants que c'est un temps de partage avec des bonnes choses qui font plaisir. On apprend à bien vivre, à bien jouir de la vie en mangeant.
Eh bien, vous me faites ma transition parce que figurez-vous que la semaine dernière, nous avons remis le prix du meilleur cassoulet toulousain à Christian Constant. Je ne vous présente pas Christian Constant, Yves Candebord.
Non, mais surtout, vous ne présentez pas son cassoulet.
Son cassoulet qui est une merveille, absolument. Il est sublime, son cassoulet. Il a eu le prix du champion du monde du cassoulet toulousain. Alors, c'est l'occasion de revenir sur ce plat qui est aussi de saison et de ce que ça génère comme plat parce que c'est un vrai plat convivial, fédérateur et rassembleur, le cassoulet. Christian Constant.
Le cassoulet toulousain, c'est un cassoulet déjà avec des haricots. Des haricots tarbés, des haricots qui ont cuit lentement, qui ont mijoté. On aura mis des oignons, de l'ail, du persil, de la couane. Et ensuite, une fois que ces haricots seront bien cuits, on les mettra dans une cassole avec de la bonne saucisse, la saucisse de Toulouse, du saucisson à l'ail, du confit. Il faut des grands moments comme ça. Moi, je me rappelle mon enfance où on passait des heures à table. On ne devait pas se lever de table sans que tout le monde ait fini. Et quel beau moment de passer ces repas en famille et on cassait la croûte pendant des heures, on restait à terre. Mais on ne s'ennuyait pas. Il y avait ces cons de téléphone. On prenait toujours un savoir, une éducation et ça, c'était important pour le
peuple. Eh bien oui, voilà, c'est ce qu'on aime.
Et casser la croûte du cassoulet.
Mais oui, il faut bien qu'elle a cassé la croûte. C'est vrai que les smartphones, les écrans...
Alors le numérique a cassé les repas en grande partie, c'est extraordinaire. Moi, je suis souvent obligé de demander aux personnes qui sont avec moi de couper leur téléphone. On ne mange pas avec un téléphone.
Pas de téléphone à table, comme les coltes dans les saloons à l'époque des cow-boys.
On supprime à table, ça c'est...
Nous sommes d'accord.
Sinon, nous ne mangeons plus ensemble.
On continue à chasser les idées reçues autour de notre alimentation avec le docteur Pacaud. On a plein de trucs et d'astuces à vous donner, vous allez voir, pour vous faciliter la vie dans vos repas. On revient dans un instant sur Europe 1, à la table des bons vivants. Bon samedi midi, ça approche.
Allez, on revient à table avec vous, Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus, hein. Vous êtes ici, chez vous. La table des bons vivants dresse le couvert pour vous chaque samedi de 11h à 12h30 sur Europe 1. Alimentation, il faut tout changer. C'est le titre du livre de notre invité Gérard Paco, qui fait la part belle à la façon dont nous mangeons. Et vous êtes un militant de la semi-cuisine,
oui,
Gérard Paco.
Oui, je suis un militant de la semi-cuisine parce que justement,
c'est
ça,
quoi
ça permet de contrer cette idée qu'on n'a pas le temps de faire de la cuisine.
Oui.
Ben, on va faire de la cuisine un
à
petit
moitié.
Peu plus rapide, à moitié, oui. D'ailleurs, pour ça, entre parenthèses, il faut, l'idéal, c'est d'avoir aussi un congélateur à tiroir, parce que ça nous permet d'avoir disponible des produits qu'on a pu un petit peu stocker.
Produits bruts surgelés, bien sûr.
Bruts surgelés, qui sont excellents, et qu'on a mis là, au moment où ils ne coûtaient pas très cher sur le marché, qu'on achetait sur le marché. Donc, moi, je vous prends un exemple. Je me fais des brouillades à l'épinard. Prenez des épinards, évidemment, c'est mieux quand ils sont frais. Vous les lavez bien pour qu'il y ait un petit peu de sable. Ok, vous les mettez dans du beurre. Le beurre, c'est excellent pour faire revenir les épinards.
Oui, docteur.
Je note les prescriptions.
Le beurre, c'est moitié corps gras saturé, moitié corps gras insaturé, donc il n'y a pas de problème. En plus, je suis vendéen, moi, alors je suis du pays du beurre. Et donc, on fait revenir dans du beurre, on les laisse un petit peu cuire et on casse deux œufs à la fin et on touille. Ça vous fait une brouillade. Et si vous aimez le persil, comme c'est mon cas, et c'est, j'adore, vous mettez du persil.
Vous dites aussi d'avoir recours à des boîtes de conserve.
Alors,
la boîte de
peut,
sardines, la boîte de thon, ça fait partie des essentiels des placards.
Oui, parce que la boîte de thon, ce n'est pas un produit ultra transformé.
Mais non, c'est simple.
Il y a du thon et de la flotte.
Nous sommes d'accord.
Je pense que le plus important, il faut arriver à comprendre une chose, qu'on a une phrase, nous, en cuisine, qui est la base de tout, c'est que le plus compliqué, c'est faire simple.
Exactement, Yves Condebord.
Et la cuisine, c'est la simplicité. C'est vos asperges. Il y a deux ingrédients. Ça, vous avez mis combien de temps? 3 minutes.
Ah, ça, je les ai même pas épluchés, voilà. Je les ai taillés ce matin, ça m'a pris 10 minutes.
Voilà,
ça.
Faut le dire. C'est juste une asperge.
10 minutes fricassée d'asperge verte.
Juste sauter, salé poivré, du parmesan. Oui. La cuisine, c'est simple. Il faut quand même des bons produits et des produits de saison.
C'est des produits de saison, c'est
meilleur
important.
Et moins cher.
Alors, on parle souvent de l'importance de manger à heure fixe, docteur
Alors,
Gérard
ça,
Paco.
Ça, c'est une plaisanterie.
Ben oui, c'est ce que vous dites dans votre livre.
Alors, on n'a pas le temps de développer ça, mais moi, je suis très un aficionado de la génétique. Il faut quand même se rappeler que l'homme existe depuis 3 millions d'années. Enfin, il s'est fabriqué en 3 millions d'années. Est-ce que vous pouvez imaginer que pendant la constitution, l'avènement de l'humain pendant ces millions d'années, il pouvait manger à heure fixe. Enfin, on a génétiquement...
Madame Cro-Magnon, elle n'était pas
Madame Cro-Magnon,
la popote.
Elle ne pouvait
hein.
pas manger à heure fixe. Parce que le gars, il allait chercher sa nourriture toute la journée.
Bien sûr.
Il n'en trouvait pas tous les jours, en plus.
Ça, c'est intéressant.
Donc, il mangeait quand il avait de la nourriture. On sait que nous n'avons pas d'horloge dans le cerveau pour dicter notre nourriture. Ce sont des acquis purement sociaux qui nous sont purement imposés.
Prenons le temps de mastiquer, vous dites.
Alors,
aussi.
C'est bien plus intéressant que de fixer des horaires. Prenons le temps de mastiquer. Pourquoi ? Alors,
la première digestion, la mastication.
C'est la première digestion. Il y a déjà une amylase qui va jouer un rôle ici.
Avec les enzymes de la salive.
Dans la salive. Et puis surtout, c'est le moyen d'envoyer des signaux à notre cerveau pour arriver à la satiété. Parce qu'on a un problème entre l'appétit et la satiété au niveau cérébral. L'appétit est très violent et c'est une addiction. C'est normal parce que sinon on ne peut pas vivre sans manger.
Bien sûr.
Donc c'est une véritable addiction inscrite dans des mécanismes de l'hypothalamus. Et la satiété, ça vient un peu plus tardivement. Il faut entre 20 et 25 minutes pour que commence une sensation de satiété. Donc en mastiquant, vous envoyez à la fois des nutriments et des fractions alimentaires qui vont envoyer des messages au cerveau. Ça met un petit peu de temps. Et donc, petit à petit, on mange moins parce qu'on est en état plus de satiété.
Eh bien, prenons le temps et vous le dites, soyons plus gourmets que gourmands et que gloutons. Vous le dites dans votre livre.
On devrait inventer le mot gourmettise.
Oui, ben ça nous va bien.
Je le propose.
On achète. Voilà, votre livre est passionnant. Comme vous, docteur Gérard Paco, Alimentation, il faut tout changer aux éditions L'Archipel. Merci d'être venu à la table des bons vivants.
Merci à vous de m'avoir reçu. Merci.
Merci Gérard Paco.
Europe 1. 12h30, Laurent Mariotte.
Bientôt midi, hein, c'est l'heure de retrouver l'ami Jean-Luc Petit-Renaud, adepte de la gourmettise lui aussi. Alors quand il n'a pas le nez dans un bœuf bourguignon, il plonge dans des livres de cuisine. Et d'ailleurs, il avait un mot à nous dire sur les ouvrages culinaires. Bonjour, bonjour l'ami Jean-Luc.
Eh bien le bonjour mes bons vivants, j'espère que vous êtes en forme. Alors, je voulais commencer par une devinette. Est-ce que vous faites la différence entre un livre de recettes et un livre de cuisine? Eh bien, il y en a une quand même qui est très grande, parce qu'on sait aujourd'hui que beaucoup de chefs de cuisine sont des amateurs, ont envie à un moment donné de consigner leurs recettes. Alors on ne sait pas grand-chose d'eux, mais on a comme ça des recettes au mieux triées classés par saison. Et puis, un livre de cuisine, c'est un livre complètement différent. C'est un livre qui vous donne envie. C'est un livre qui vous attrape par le cœur, par l'estomac, par les papilles. Dans une belle recette, on mange autant la cuisine que le cuisinier ou la cuisinière. On mange les deux en même temps. Alors, est-ce qu'on garde un souvenir touchant du fameux carré de porc laqué au yuzu, au fil de caramel esthétiquement posé, la goutte de balsamique sur le bord de l'assiette, où on est un peu attiré plus par le gratin de queue d'écrevisse des mères lyonnaises. Ces belles mères lyonnaises, on a envie quand même de les embrasser chaleureusement. Comme ça. Et en fait, on a envie de goûter à pleine bouche le vrai livre de cuisine.
Ben oui, un livre qu'on tâche, hein, on est d'accord, Olivier Pouls.
C'est vrai que de plus en plus, on voit des chefs qui font des livres un peu pour se faire plaisir, avec des recettes impossibles à réaliser, de très belles photos, qui en général finissent sur la table basse et on ne refait jamais rien. Mais c'est dommage.
Faisons simple. Le carnet des mères lyonnaises, hein, il est paru en 2015 aux éditions Les Cuisinières Sobolir. C'est le livre dont parlait Jean-Luc Petit-Renaud. Merci camarade Jean-Luc et à la semaine prochaine. Dans un instant, nous allons recevoir la comédienne Valérie Bonneton, une amoureuse des produits de saison. Elle a des idées de recettes plein la tête, vous entendrez. Et puis elle est actuellement sur les planches aux côtés de Danny Boone dans la pièce 8 euros de l'heure. On en reparle à la table des bons vivants. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Il est 11h48 à la table des bons vivants. Alors il est temps de rajouter un couvert à côté de vous, Laurent Mariotte.
Merci d'être à l'écoute des bons vivants. Nous sommes ensemble depuis 11h et comme tous les samedis, juste avant midi, c'est l'heure d'accueillir notre invitée. Alors elle est née dans le Nord et s'est envoyée Amadeus au cinéma à 12 ans qu'elle se prend de passion pour le théâtre. Elle débarque à la capitale pour suivre les cours du conservatoire. Amoureuse de la comédie, elle passe des planches au plateau de cinéma. Son rôle de Fabienne Lepic dans la série Fais pas ci, fais pas ça l'a rendue très populaire. Elle est actuellement au Théâtre Antoine à Paris avec Danny Boone, son copain du Nord, dans la pièce 8 euros de l'heure. Valérie Bonneton est notre invitée. Bonjour Valérie.
Mais bonjour.
Soyez la bienvenue, bonne vivante Valérie.
Mais je suis très bien accueillie, il y a des asperges, du fromage. Et même du vin.
Mais du champagne.
Du champagne. Ah, carrément, on a mis les petits plats dans les grands pour vous recevoir. Je suis venu vous voir cette semaine au Théâtre Antoine à Paris. Une super comédie avec Danny Boone. Vous jouez Jacques et Laurence. Vous, c'est Laurence et Danny Boone et Jacques. Un couple à qui il n'arrive que des malheurs à cause d'une femme de ménage à qui il n'arrive que des malheurs.
Je suis persuadée, en fait, que voilà, ils mettent un peu toutes leurs angoisses sur cette pauvre femme de ménage. Quoi.
C'est ça.
Donc, voilà, persuadée d'être maraboutée par elle.
Alors, moi, je vais souvent au théâtre à Paris, pour vous dire la vérité. Je n'ai jamais vu ça. Le théâtre est rempli. Ça déborde de tous les côtés. Tous les strapontins sont utilisés.
C'est vrai,
c'est un gros, gros succès.
C'est fou. Ouais, c'est merveilleux. Non, mais tout en haut, le poulailler, les gens sont là et ils sont très présents. Et voilà, c'est,
ça rit, c'est, vous faites un joli ballet, bravo. 8
Merci.
Euros de l'heure au Théâtre Antoine,
Merci.
Valérie Bonneton. Quel est votre goût de la semaine?
Alors, mon goût de la semaine, bah, pourquoi pas le Pont-l'Évêque, puisque j'aime énormément...
La Normandie.
La Normandie.
Bah oui.
J'aime Pont-l'Évêque, j'aime cette ville, j'aime le pays d'Auge. Je trouve que c'est absolument merveilleux et quand j'y arrive, bah, la première chose que j'ai envie de faire, c'est cuisiner.
Les bocages normands,
c'est vrai. Marché.
Vous aimez ça, hein?
J'adore ça. J'adore
Qu'est-ce
ça.
Que vous faites alors?
Un Saint-Pierre avec un petit meursault.
Oh,
ça vous dit?
C'est vrai, mais comment ça vous dit? Et comment on vient
avec un petit gratin de fenouil avec du parmesan et une toute petite crème.
Ah oui,
pas plus. Petit gratin de fenouil.
Ah, on prend.
Ou alors, je sais pas, je prends n'importe quel légume et puis j'invente. Hier, j'ai fait des tartines ricotta avec de la betterave. C'est pas mal.
C'est bien, mais c'est très bien. On prend tout
et
ça.
Quand c'est des bons produits, on fait tout.
Et vous êtes venu avec le Pont-l'Évêque d'ailleurs, hein, qui vous accompagne.
Oui. Ah,
voilà, il y a Gaston, votre chien, qui est pas loin. Il y a le Pont-l'Évêque avec vous.
C'est
vous
vrai.
Êtes venu accompagner.
Je suis cerné.
Alors, vous êtes curieuse, hein, vous aimez découvrir de nouvelles choses
tout,
en cuisine.
J'aime tout découvrir.
Eh bien,
en cuisine,
alors justement,
ça.
C'est ce qu'on va faire avec Yves Candebordes, qui s'amuse à tester pour nous des ustensiles ou des nouveaux produits. Aujourd'hui, c'est un nouveau produit, c'est un condiment. Alors, c'est pour changer, on va dire, du piment d'Espelette, de la moutarde et des autres condiments, Yves Candebordes. Qu'est-ce que c'est?
Ouais, c'est pour changer, mais c'est surtout, je trouve ça très utile et très pratique. Voilà. Alors, c'est sous forme de crayon.
On dirait un gros crayon gras.
Il y a un crayon, il y a le taille-crayon avec.
Ah, carrément.
Et vous savez comment ça s'appelle?
Non.
Ocni. Objet comestible non identifié.
Ah, bah oui, ça porte bien son nom. Et c'est quel goût ce truc-là?
Alors, il y en a, bien sûr, il y a différents goûts. Là, celui-là, il est à l'ail noir, mais on peut l'avoir au citron, on peut l'avoir au basilic. Laurent, c'est un produit
naturel.
Naturel.
Bah oui, venant de vous, on s'en doute.
C'est un produit naturel où il n'y a aucun additif, aucun colorant, aucun acide rajouté. C'est fait avec des produits français.
C'est des pelures, par exemple, si c'est à l'ail, c'est des pelures d'ail quand on taille.
Voilà, là, c'est concentré en fin de compte, c'est une pâte. Et alors, avec le crayon, le geste est très facile. C'est comme si on affûtait.
Ah oui.
On a des petits copeaux.
Ah, c'est beau. C'est génial.
Regardez, ça fait des petits flocons qui tombent.
Alors, il y a ail noir, cèpe, basilic.
Ouais, il y a plusieurs arômes. C'est reconstitué, c'est-à-dire que c'est cuisiné. Et après, c'est broyé, c'est gélifié avec l'agar-agar qui est un gélifiant naturel. Et donc, on l'a sous forme de crayon. C'est surtout très pratique. C'est pratique pour faire quoi?
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça se mange?
Alors, ça se mange de différentes façons. Par exemple, on va prendre une soupe d'asperges. Il va vous rester des queues d'asperges.
Oui, je vous ai fait des petites asperges vertes rôties ce matin.
C'était magnifique.
Regardez, en voilà, vous voyez.
On peut les goûter, Laurent.
C'est pour vous, Valérie Bonneton, vous plaisantez, évidemment.
Moi, j'ai faim.
Allez-y, c'est l'heure.
Vous faites une crème d'asperges, très peu crémée. Vous la servez, et juste avant de la servir, vous faites tomber dessus.
Ah oui, les copeaux d'ail noir.
Ces petits copeaux d'ail noir, ça va relever votre soupe, ça va donner un caractère différent, ça va l'embellir.
Et celui-ci. Comment vous la faites, la crème d'asperge?
Pardon.
Comment vous la faites?
Alors,
un petit bouillon.
C'est très facile.
Un petit bouillon.
Alors, ce qu'il faut d'abord faire, c'est d'abord prendre des belles asperges. On va les éplucher, les asperges vertes, naturellement, et on va couper les extrémités.
Ouais.
Parce que quand on a une asperge, c'est dommage de faire de la crème avec une asperge entière.
Eh oui.
Tandis que là, on va garder les têtes pour faire une petite salade d'asperges, ou comme a fait Laurent, les asperges poêlées. Les queues, on les conserve, on les met dans de l'eau, on les couvre. L'idéal, c'est mettre un peu de sel, un peu de poivre. Et si on avait un reste de bouillon, de pot-au-feu,
ça,
un petit reste...
Ça, c'est le vrai bouillon de vrai de vrai.
Ah oui, le vrai.
On remet dedans.
Le vrai de vrai, c'est ça qu'il faut.
On fait cuire. Une fois que c'est cuit, on va la crémer très légèrement, mais vraiment très légèrement. La mixer et vous avez une crème asperge qui est facile à faire, rapide. Et après, vous prenez ce petit crayon, on va râper des copeaux dessus. Et on a une crème d'asperges qui est très simple.
Relevé à l'ail noir.
Avec beaucoup de personnalité. Relevé à l'ail noir.
Mais l'idée vient de l'éplucheur à légumes, là.
Ça ressemble à ça.
C'est exactement pareil. C'est comme quand on prenait des copeaux avec du parmesan. Mais on a ça aussi avec du basilic, par exemple.
Avec des cèpes aussi. Vous avez fait quoi avec les cèpes?
Du basilic, c'est pas mal.
Vous savez, cette semaine, je suis rentré très fatigué. J'avais faim. Je me suis fait cuire des pâtes.
Après le service,
23h45.
Et oui.
Je me suis fait un plat de pâtes. J'ai sorti mon petit taille-crayon, et j'ai sorti mon crayon de cèpe, j'ai fait des copeaux de cèpe qui sont tombés dans mes pâtes, qui étaient encore tièdes, j'ai mélangé, et j'avais une pâte au cèpe merveilleuse.
Eh ben, on adopte, c'est combien génial, ça coûte, ça?
C'est pas très onéreux,
ouais.
Le crayon coûte 12 euros,
oui.
Il faut savoir qu'on doit faire entre 120 et 130 copeaux dans un crayon.
Mais est-ce que ça se conserve?
Alors, bonne question, est-ce que ça se conserve?
Ça se conserve pratiquement une année au réfrigérateur.
Magnifique.
Je dirais vraiment, c'est quelque chose d'utile qu'on peut utiliser dans son frigo.
Et
on
ça
doit
se trouve
l'avoir. Ça se trouve
ma boîte de crayons
sur le site donc d'Ockney et aussi dans les épiceries spécialisées.
À ockneyfactory.com, c'est sur internet. Eh bien, merci beaucoup Yves Candebordes. J'adore votre curiosité, Yves. Et Valérie Bonneton est très curieuse, alors je pense qu'on ne va pas la décevoir parce qu'on a plein de choses. Vous aimez la Normandie, vous nous avez dit.
J'adore.
Vous aimez la tarte aux pommes, alors?
Ah bah évidemment que j'aime la tarte aux pommes.
On va revisiter pour vous une tarte aux pommes avec un chef normand. C'est plus que revisiter, c'est une création. Elle sera très léger et croustillante. On va la faire façon gaufre, vous verrez.
Ah ouais,
ne bougez pas, on revient avec Valérie Bonneton et la tarte aux pommes.
Avec le pot de crème à côté.
Bon samedi midi sur Europe 1.
Soyez un peu patient par contre, parce qu'avant la tarte aux pommes, ce sera le journal de la mi-journée avec François Claus qui arrive dans quelques minutes sur Europe 1.
Allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver. Produits de saison, alimentation, trucs et astuces pour cuisiner.
J'ai jamais vu une émission comme
chaque
ça.
Chaque samedi de 11h à midi et demi, la brigade des bons vivants vous donne rendez-vous. Merci d'être là à tous et merci pour votre fidélité. Valérie Bonneton est notre invitée à l'affiche de 8 euros de l'heure actuellement au Théâtre Antoine à Paris. Bonne vivante engagée, Valérie Bonneton. Vous êtes la marraine des paniers solidaires Cocagne. C'est une belle action lancée avec les jardins de Cocagne qu'on soutient ici et qu'on aime beaucoup. Expliquez-nous, tiens, ça un petit peu.
Mais en fait, c'est Julien Hada qui venait me voir et puis qui m'a parlé de ça naturellement. Je me suis dit, j'ai trouvé ça génial, quoi. Des gens qui sont en réinsertion et qui cultivent ces jardins. Et les paniers solidaires vont pour les familles défavorisées. Moi, voilà, ça me fait toujours vraiment mal quand je vois les familles acheter les fruits immondes.
Bien sûr.
Qui ne sont pas des fruits. Voilà, franchement,
c'est des paniers solidaires.
Ça me fait mal.
Et les jardins de Cocagne sont des jardins solidaires et responsables aussi.
Voilà,
avec la réinsertion aussi pour du personnel qui vient travailler.
Et puis j'ai rencontré ces filles qui s'occupent de ces jardins. Elles sont merveilleuses, quoi. J'ai passé un moment, on a cuisiné ensemble presque une journée. Et voilà, je trouve ça magnifique, quoi.
Le bien manger pour tous. On a eu la même enfance, pas beaucoup de sous à la maison, mais un potager qui permettait d'avoir des fruits et légumes.
On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on mangeait. Ma mère faisait 400 pots de confiture par an. Elle mettait tout en conserve l'hiver pour l'été pour l'hiver. On avait des pêches au sirop. Elle faisait tout elle-même. Jamais un gâteau industriel. Jamais une boisson industrielle. Jamais.
Pas de cochonnerie.
Je connaissais pas, donc on était comme ça.
Et vous êtes toujours comme ça, vous êtes en pleine forme.
Oui, bien sûr, grâce à elle.
Et vive sur les planches avec Danny Boone, justement, en ce moment, au Théâtre Antoine. Vous connaissez bien la Normandie, alors ?
Ah oui, je connais bien la Normandie.
Et vous aimez la Normandie ?
J'adore.
Tarte aux pommes ?
Ah, bien sûr, tarte aux pommes.
Comment vous la faites, la tarte aux pommes, Valérie Bonneton ?
Très simplement, en fait. Je fais la pâte moi-même, une pâte brisée, en fait, toute simple.
Bah oui.
Farine de petite épeautre.
Ah,
beurre.
C'est bien, oui.
Petite épeautre. Petit goût rustique. Petit.
De Provence.
Pas pareil. Hein.
C'est pas la même chose. Ah non, c'est pas la même chose.
Et puis, pommes, un peu de cannelle, un peu de quatre épices et tout. Le plus simplement possible, souvent.
Alors, on vous emmène justement découvrir un jeune chef installé dans la Manche.
La tarte tatin aussi.
C'est plus bas que dans le Calvados, là où vous êtes. Il s'appelle Michael Marion. Il est installé à Saint-Lô. C'est un chef que j'aime beaucoup. Ce samedi, il va nous faire un dessert vraiment indémodable. C'est la tarte aux pommes. Et Valérie Bonneton, comme vous dites, dans Fais pas ci, fais pas ça.
C'est pas moi.
Ça surprend, ça réveille.
À table
avec Marion Sauveur qui est allée enquêter sur cette belle histoire d'amour entre la pomme et la Normandie, Marion.
Mais oui, c'est la région des pommes. Il en existe des centaines de variétés et surtout des pommes à cidre, vous en parliez tout à l'heure. Alors, il y en a beaucoup plus que celles dites à couteau, hein, justement. Et qui dit pomme, dit donc tarte aux pommes. Et avec Michael Marion, justement, qui est le chef du restaurant Intuition à Saint-Lô, c'est un chef qui met vraiment en valeur les produits régionaux. Et donc, les pommes de son terroir. Bien sûr, on a fait une tarte un peu particulière. C'était avec des gaufres, en fait. Et vous allez voir, c'est très croustillant, avec des pommes du Cotentin. Alors, l'objectif, c'était de retrouver les vrais goûts d'une tarte aux pommes, quand même, à travers cette gaufre.
Deux façons de cuisiner la pomme, on va entendre. Hein.
Oui, complètement. Alors, on a commencé par réaliser ensemble une compote de pommes caramélisée. On a coupé les pommes finement et on les a plongées dans le caramel.
Allons-y.
Je vais mélanger pour enduire toutes mes pommes de caramel. Hein. On va couvrir et on va laisser mijoter pendant 15 à 20 minutes. Et je viendrai juste mettre un coup de fouet dedans pour vraiment accélérer la cuisson de la pomme en cassant la chair pour qu'on retrouve des morceaux.
Et avec le caramel, que ce soit gourmand.
Bah, complètement. La pomme est complètement éclatée. Alors, on la laisse refroidir. Là, on va cuire notre pâte feuilletée au gaufrier. J'ai la soupe de sucre glace. Recto verso.
Pour que la pâte caramélise un petit peu. Hein.
Voilà, tout à fait.
Et on met la pâte dans le gaufrier.
Je vais la laisser 3 à 4 minutes. Hein. Il faut qu'elle ait une couleur légèrement blonde. C'est tout. Là, on l'enlève et on va la laisser refroidir. On va ajouter notre compote, on tartine notre gaufre. Et là, je vais ranger mes pommes. Donc là, on a pris une pomme qui s'appelle la parée, qui est une pomme typiquement locale. Tient bien, qui est douce, qui est légèrement acidulée, coupée très finement. Donc pour que ça soit joli, je vais m'amuser à les ranger un peu en écaille en fait. Et je vais la saupoudrer un petit peu de sucre glacé.
On est gourmand en Normandie. Ah,
gourmand. On va la positionner au four. Et j'ai mis 180. Là, on va la mettre 8 minutes. C'est parti. Je vais vérifier la pointe du couteau, la cuisson de ma pomme, vous voyez. Et là, c'est fondant.
En croque.
Vous avez le feuilletage qui est vraiment caramélisé, comme si on mangeait un millefeuille en fait. Hein.
Mmh. On a des textures complètement différentes de pommes.
On cherche la gourmandise, donc il faut une pointe acidulée. C'est une tarte qu'on pourrait presque manger au bout des doigts. Comme ça.
Ah, c'est beau. Mais quel métier difficile vous faites, Marion Sauveur. Elle est bien, cette tarte aux pommes. Alors, il l'a faite avec la parée, hein, qui est une pomme originaire de Basse-Normandie.
C'est ça.
C'est la meilleure variété de pommes à couteau de Basse-Normandie.
Ah,
c'est
bon, la
parée. Il y a la cucreux aussi. Vous connaissez la cucreux en Normandie ?
Non,
qu'on appelle
pas aussi
la rainette normande. On dit que la pomme se reforme même quand elle éclate à la cuisson, en fait, sur la cucreux. Et il y a la claque pépin.
Quand vous
la claque pépin, vous la prenez, vous la comme un bilboquet, comme un hochet. Il y a des pépins qui font du bruit à l'intérieur.
On peut jouer de la musique avec.
On peut jouer de la musique avec. Olivier Pouls, qu'est-ce qu'on boit avec cette tarte aux pommes de Michael Marion à Saint-Lô ?
Bah, cidre, évidemment. Évidemment, l'accord pomme-pomme, on ne peut pas s'en passer. Et on finit par un petit calva.
Délicieux.
Exactement, pour se remettre sur le vélo, comme on dit là-bas. Donc, le cidre avec la tarte aux pommes et puis une petite goutte de calva.
Une façon de cuisiner la pomme un petit peu inattendue, Yves Candebord, en version salée, par exemple. On peut s'en servir comme condiment aussi, vous qui aimez ça.
Oui, on peut s'en servir comme condiment, mais aussi on peut s'en servir pour même comme enveloppe. Voilà. C'est juste de passer une pomme au micro-ondes, une minute trente.
Ouais.
On la sort, on la laisse refroidir, on va l'évider. C'est-à-dire vous faites un chapeau, vous enlevez un petit chapeau sur le dessus, on la creuse, dedans, on va récupérer de l'araignée. Parce qu'on va rester normand.
Ah oui,
une araignée.
Alors, c'est pas vrai.
C'est drôle que vous parliez ça parce que Michael Marion, qu'on vient d'entendre, m'a fait découvrir la moussette, qui est l'araignée jeune, justement, qu'on découvre au printemps. C'est bientôt la saison. Il l'a fait avec un bouillon d'herbe. C'est magnifique.
Ça. C'est magnifique. Je pense pour moi, l'araignée, c'est l'excellence. Même meilleur pour moi que du homard. Que
ah oui, c'est sublime.
C'est tout vrai, en finesse. Donc cette araignée, juste une pointe de mayonnaise très légère, de l'avocat, de l'estragon. On farcit sa pomme, on fait une petite pomme en surprise.
Oh, je vais faire ça
vous permet d'avoir une petite pomme en surprise qu'on peut le préparer d'avance. On la met sur la table, ça fait toujours l'effet. et ce plaisant de côté iodé de l'araignée avec le croquant de la pomme, c'est merveilleux.
C'est un crabe l'araignée, hein. C'est un cousin du crabe, c'est un crustacé. Eh bien, ne bougez pas, on revient tout de suite avec Valérie Bonneton et nous répondrons aux questions que vous avez posées sur le répondeur des bons vivants au 39-21. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. A tout de suite les amis.
De 11h à midi et demi, c'est la table des bons vivants sur Europe 1 et aujourd'hui aux côtés de Laurent Mariotte, en plus de l'équipe, il y a Valérie Bonneton.
Aujourd'hui à la cantine, je veux manger des sardines, du poisson, des acides gras, mais bien sûr, il n'y en a pas. Ça m'énerve.
Ah, ça surprend. Eh oui, ça l'énerve. C'est Valérie Bonneton, notre invitée, qui chante cette belle chanson dans Fais pas ci, fais pas ça, la série qui l'a rendue populaire à la télévision, actuellement sur les planches avec Danny Boone. Vous aimez chanter et parler de nourriture à la fois.
Ouais, j'aime bien chanter.
Alors, nous allons répondre aux questions que vous vous posez.
Le pont l'évêque est délicieux.
Il est bon.
Valérie Bonneton, qui est amoureuse de la Normandie, est venue avec un pont l'évêque qui est absolument divin. Vous validez, Yves Candéborde?
Je valide totalement. Ah, ouais.
Agriculture, alimentation, recettes, nous sommes là pour répondre à vos questions aussi au 39-21. Eh bien, nous y allons tout de suite sur notre répondeur. Une question, c'est parti.
Bonjour Laurent et à toute l'équipe des gourmands. Alors, c'est Florian de Genève, mais originaire du Tarn-et-Garonne. Et j'aurais une question à vous poser concernant le petit épeautre. Est-ce que vous auriez des recettes à nous donner autres que l'habituel risotto? Merci bien à toute l'équipe et bon appétit.
Ah oui, il y a un truc qui est très bien avec le petit épeautre, c'est le risotto.
Oui, c'est le risotto.
Moi, je préfère un vrai risotto plutôt qu'un risotto petit épeautre.
Faut qu'on lui réponde vraiment. Là,
ça peut changer. Mais après, le petit épeautre, il faut le travailler. Tout ce qu'on peut faire avec le riz, on peut le faire à petit épeautre. Tout ce qu'on peut faire avec les pâtes, on peut le faire avec petit épeautre.
Ou le quinoa, on peut faire un taboulé aussi.
Mais même, Laurent, on peut faire un riz au lait.
Ah, c'est bien, on
peut le faire en sucré, pareil.
Ah oui, c'est bon ça.
Mais c'est exactement les mêmes recettes. Alors, il faut faire attention par rapport au temps de cuisson, parce qu'il y a des temps de cuisson qui sont différents, mais c'est identique.
Vous en servez, vous, Valérie Bonneton, du petit épeautre moulu pour faire une pâte brisée?
Que c'est l'ancêtre du blé, quoi.
Exactement.
En fait, c'est, voilà.
Oui, complètement, c'est surtout pas quelque chose de barré bio, faut pas penser ça. C'est meilleur que le blé qu'on a aujourd'hui.
Ouais,
la
ça,
farine de petit épeautre aujourd'hui, pour la santé, c'est meilleur. Le docteur serait là, oui, il dirait pareil.
Nous avons reçu le docteur Gérard Paco tout à l'heure. Je vous rappelle son livre, hein, Alimentation, il faut tout changer. Il y a plein d'idées à piocher dans ce livre. Une autre question au 39-21.
Bonjour, René de Porto Vecchio, en Corse. J'aimerais savoir quelle est l'astuce pour faire cuire des pieds de porc sans qu'ils ne se recroquevillent.
Et c'est pas une blague, hein. C'est une vraie recette. Et on a attendu que vous soyez là, Yves Candéborde, pour y répondre.
C'est vrai ça.
Parce que moi, franchement,
c'est un vrai problème.
J'ai cherché.
Les pieds de porc qui se recroquevillent, c'est fréquent.
Je vois ce qu'il veut dire.
Je pense que mon grand-père doit se retourner dans sa tombe. Mon père, qui est encore vivant, doit rigoler. Mais c'est la façon la plus classique qui existe pour faire cuire des pieds de porc, c'est prendre une planche,
oui,
mettre deux pieds de porc, un sur le dessus, un sur le dessous.
Oui.
Prendre un cordon, ce qu'on appelait à l'époque des cordons à charcuterie, vous l'enveloppez complètement avec le cordon. Comme ça, vous avez quelque chose qui est bien rectangulaire et vous le cuisez ainsi. Et quand vous allez le laisser reposer après cuisson, quand vous allez le déballer, vous aurez votre pied de porc qui sera droit comme un i.
Oh René, vous avez entendu, entre deux plaques, hein, le pied de porc.
C'est-à-dire qu'une planche au milieu, un pied de porc de chaque côté et
on le ficelle.
Ficelé.
Vous qui avez vraiment anobli le pied de porc, hein, avec la régalade à Paris, on s'est jeté dans votre restaurant il y a déjà une vingtaine d'années. Comment a été cuisiné chez vous le pied de porc là, quand vous nous avez justement titillé les papilles avec ce tabac? C'est un produit tripier, le pied de porc?
Oui, c'est un produit tripier. Donc on le cuisine dans un bouillon. On le ficelait pas parce qu'il n'y avait pas besoin, parce qu'on allait désosser par la suite. Mais un bouillon très aromatisé, beaucoup de légumes, beaucoup de végétal justement.
Pour balancer.
Voilà, pour balancer ce côté qui est quand même assez carnassier. Une fois qu'ils étaient cuits et refroidis dans leur bouillon, très important, on le laisse refroidir dans le bouillon de façon à qu'il se gorge de bouillon.
Oh.
On le désossait entièrement.
Ça doit être dingue ça.
On réalisait une duxelle de champignons, c'est des champignons hachés, juste sautés à la poêle. On mélangeait le pied de porc qui était désossé, haché, tous les légumes de cuisson du pied de porc hachés, les champignons, on faisait des boules un peu crépinées, rôties. Oh, on avait bien. Un petit de deux pieds de porc.
Qu'est-ce qu'on boit avec ça?
Envoyez-moi une belle bouteille de Beaujolais avec ça.
Voilà, du gamay. Et ben voilà, avec modération, mais avec plaisir, bien entendu. Amis auditeurs, encore une fois, merci d'être fidèles à cette émission. Et vous le savez, le 39-21 attend vos appels tout au long de la semaine. Valérie Bonneton est notre invitée à la table des bons vivants. Juste après la pause, nous allons vous découvrir, Valérie, de l'autre côté de la fourchette avec le questionnaire des bons vivants.
Ah oui.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Si vous n'avez pas d'idée de plat pour ce midi, si vous adorez les bonnes recettes, eh bien ne bougez pas, vous êtes à la table des bons vivants avec Laurent Mariotte.
Oh là là.
Adepte des grandes tablées, amateur de faits maison et de coups de fourchette pour comprendre ce que nous mangeons, vous êtes au bon endroit, vous les entendez discuter ensemble. Valérie Bonneton, notre invitée, avec Yves Candebord. Vous parliez de quoi là? On parle de ripaille?
De Naples, on parlait de Naples où on mange merveilleusement bien.
La pizza est inventée à Naples.
Oui, on mange le poisson direct sur des poissonneries, comme ça, avec un petit verre de blanc.
Les chariots de produits tripiers dans la rue.
Quel bonheur. Valérie Bonneton, vous êtes à l'affiche du théâtre Antoine à Paris avec Danny Boone dans la pièce 8 euros de l'heure. Je vous ai vu, moi, cette semaine, une pièce qui est une vraie comédie où on rigole du début jusqu'à la fin. Le théâtre est rempli. Vous êtes en préparation de films pour le cinéma également en ce moment.
De films qui sortent. Et peut-être, oui, des choses en préparation, mais bon, j'attends que ce soit confirmé.
Un film qui sort avec
Benoît Poulvorde. Et puis... la suite des petits mouchoirs, quoi. Eh oui. Ils iront ensemble.
Eh oui, on vous a découvert au cinéma aussi avec les petits mouchoirs. Vous aimez le vin, Valérie Bonneton?
Oui, j'aime le vin.
Là, on vous a servi du champagne.
Je ne suis pas très connaisseuse, je vais vous dire la vérité.
C'est vrai?
En fait, je sais quand c'est bon, mais j'oublie.
Mais vous avez une préférence sur des cépages, par exemple?
Oui, les Bourgognes, enfin, j'aime bien les vins assez forts.
Pinot noir, Côte du Rhône peut-être aussi?
Oui, j'aime bien.
Tout terrain, quoi, en fait.
Tout terrain.
Moi, j'aime bien quand c'est
plutôt
charpenté.
Oui, j'aime bien.
D'accord.
Alors, ce sont les deux minutes du vin d'Olivier Pouls qu'on retrouve également dans la Revue du vin de France. Hein, vous le savez, Olivier.
Merci.
Alors, on va vous écouter, Olivier, à propos d'une bouteille que nous avons encore du mal à mettre dans nos maisons. C'est la bouteille de vin avec la capsule à vis.
Bah oui, on la voit de plus en plus fréquemment sur les tables, même si en France, on a beaucoup, beaucoup de réticences. Alors, Valérie dit c'est moche, c'est vrai que c'est un peu le problème de
c'est
la perception.
On a du mal. Hein.
Mais pourtant, croyez-moi, on imagine que c'est réservé à la piquette, mais ce n'est pas le cas. Il y a aujourd'hui des très bons producteurs qui mettent en capsule à vis et je vais vous expliquer pourquoi.
Oui, c'est une bonne alternative au bouchon en liège en fait. Mais souvent, c'est vrai qu'on trouve ces capsules à vis depuis longtemps sur les vins étrangers. Je pense aux vins d'Afrique du Sud,
oui,
par exemple.
L'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la majorité des vins, plus de la moitié des vins qui sont embouteillés là-bas, sont embouteillés à capsule à vis parce que c'est rentré dans leur code, c'est rentré dans leur mœurs. Ici, c'est vrai qu'en France, quand vous allez au restaurant et que vous n'entendez pas le célèbre...
Ben oui.
Vous êtes un peu frustré.
Ouais,
donc vous avez l'impression que c'est de la piquette. Mais pourtant, c'est un obturateur qui mérite.
C'est pas si mal à vous entendre. Pourquoi c'est pas si mal alors?
Parce que il faut savoir que la grande majorité des vins qu'on consomme sont des vins de consommation assez rapide. On prend les rosés par exemple. Ils ont été vendangés en septembre. Ils sont mis en bouteille maintenant. Ils seront bu cet été. Ça n'a aucun intérêt de gaspiller en quelque sorte un liège qui se fait de plus en plus rare pour obturer ce genre de bouteille. Il n'y a aucun problème aujourd'hui à travailler avec la capsule à vis. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, ça va protéger votre vin rosé ou blanc de la même manière qu'un bouchon classique en liège.
Alors là, vous parlez des blancs, des rosés, mais les rouges, ça marche aussi avec les rouges?
C'est plus discutable sur les rouges parce que les rouges ont besoin d'un tout petit peu d'échange d'oxygène. Ils sont moins fragiles à l'oxydation. Et donc, c'est vrai que sur les rouges de très longue garde, on n'a pas suffisamment de recul avec la capsule à vis, même si ce sont des systèmes d'obturation qu'on teste en France depuis maintenant plus de 30 ans.
Alors, ça permet de remplacer le liège, en fait, aussi, hein, ce bouchon à vis.
C'est bien là l'intérêt, c'est que l'explosion de la production du vin dans le monde n'a pas été suivie par l'industrie du liège, qui est malheureusement limitée pratiquement qu'à une seule région du Portugal. Et on n'a pas assez de liège aujourd'hui pour faire face à la demande. Donc il faut l'économiser, il faut le garder pour les très grands vins qui en ont besoin. Et puis pour le reste, passons soit à la capsule à vis, soit à d'autres formules.
Mais oui, il y a d'autres bouchons que la capsule à vis ou que le liège même.
Des bouchons par exemple en silicone, vous avez du liège aggloméré qui marche très bien, vous avez des bouchons en verre. Bref, tout ce qui peut faire économiser un peu de liège justement pour le réserver à des cuvées qui en ont besoin, c'est très intéressant.
Et tiens, ça joue sur le prix de la bouteille, ça, le bouchon?
Alors oui, parce que le liège, le très bon liège, peut coûter très cher. On a des bouchons qui coûtent plus de 2 euros.
Ah oui,
donc
même.
La capsule à vis, quand elle est bien étudiée, quand elle est bien mise en place avec la ligne qui va bien, franchement, ça n'a pas d'incidence sur le prix.
Eh bien, merci Olivier, on retrouvera toutes les références sur europe1.fr. Allez, c'est le moment de passer à la casserole. Valérie Bonneton, nous allons vous frotter au questionnaire des bons vivants. Vous êtes prête, Valérie?
Oui.
C'est parti. Quel est le goût de votre enfance, Valérie Bonneton?
Alors, la confiture de framboise avec pépins que faisait ma mère.
Ah,
j'en étais dingue.
Ça, c'est un délice, ça.
Bah ici, il y a de la confiture de groseille,
sans pépins. Votre plus beau repas dans le sens inoubliable?
Repas chinois que préparait ma mère pendant 2 jours. Elle préparait ça, voilà. Et le mot nem n'a aucun rapport avec ce que l'on connaît.
Ah oui, elle faisait tout elle-même.
Elle faisait tout elle-même.
Oula, c'est beau, ça.
Vraiment, elle cuisinait pendant 2 jours. Et c'était, je sais pas, elle avait un livre extraordinaire, vraiment, de la vraie cuisine chinoise et qui était, mais... Ben voilà, j'ai jamais mangé comme ça.
Votre pire repas?
La choucroute.
C'est vrai, pourquoi? En général ou dans un endroit en particulier?
J'ai un très mauvais souvenir, mes parents m'ont obligé à finir ma choucroute. Un soir, c'est un cauchemar.
Mais une bonne choucroute, c'est magnifique, ça.
Certainement, peut-être aujourd'hui.
Ah si, c'est une bonne choucroute.
Ah, vous croyez?
Ah oui, je suis sûr même. Pof. L'ingrédient que vous détestez en cuisine, Valérie Bonneton?
La crème de vinaigre balsamique.
Ah oui, bien réduite pour faire la virgule dans l'assiette.
Ah, je sais pas, enfin, ça me paraît un peu...
C'est le top numéro 1 de nos ingrédients inutiles en cuisine, d'après nos invités. Ah oui, c'est vraiment
ça
fait
drôle,
l'unanimité,
ça.
Ce truc-là. Quelle est l'astuce qui vous sauve la vie en cuisine, Valérie
Bonneton? Les herbes, si j'ai des herbes, je suis sauvée.
Ah, c'est vrai, ça marche toujours,
oui,
des belles herbes fraîches.
Des herbes, on fait tout avec les herbes.
Pas d'herbes sèches, hein, des herbes fraîches, s'il vous plaît.
Oui, des herbes, évidemment.
Le plat que vous ne pouvez pas manger, Valérie Bonneton?
Un civet de lapin.
Ah bon? C'est pourquoi vous aviez pain de lapin à la maison quand vous étiez petite?
Voilà, j'avais un lapin, un jour on me l'a cuisiné, c'est pas une blague.
Eh ben moi, on m'a fait ça avec un canard, moi, avec Philippe derrière mon canard.
C'est trop.
C'est terrible,
et
j'ai cherché.
Elle m'a dit, mange, c'est du poulet.
C'est fou comme les
et
parents peuvent être cruels.
Après j'avais plus de lapin, monsieur, c'est atroce.
Mais non, on a eu la même enfance.
Atroce.
Hein, c'est...
Alors du coup, maintenant, la viande, j'ai de plus en plus de mal quand même, voilà.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte, Valérie Bonneton?
Un Saint-Pierre grillé avec une ratatouille maison et un verre de meursault.
Ça, c'est vrai que c'est un bel accord. Hein. Vous validez, Yves Candebord.
C'est pas mal. On attend la date. Hein.
Quel est votre mot préféré en cuisine?
Pas de pression.
Ah, vous avez raison. Quand on se met la pression, on peut rater.
C'est foutu.
C'est foutu. On
c'est
va
pas
rater.
La joie. Il faut que ce soit la joie.
Il faut que ce soit détendu. Et surtout pour les repas
de fête. Il faut que ce soit. Voilà. Si je fais un dîner, je veux pas me mettre. Je veux que ce soit joyeux. Donc si j'ai envie de. Voilà, je fais ce que je veux, comme j'ai envie de le faire. D'ailleurs, c'est comme le jeu. C'est comme quand on joue. Il faut que ce soit comme ça. Il faut se faire plaisir à
fluide,
soi.
Il faut
sinon,
que ça
marche pas. Si on se met une pression parce qu'il y a des invités, c'est foutu.
Qui sont les invités, tiens, justement, de votre dîner idéal, Valérie Bonneton?
Des amis, j'en ai pas. Donc, non, mes amis, voilà, oui.
Et votre
amis,
adresse secrète?
Famille. Mon adresse secrète, je vais quelque part en Normandie.
Ah, on dira pas où.
On dira pas.
De Calvados?
Bah oui, Calvados.
Dans le Calvados, déjà, on se rapproche. Ça permet d'identifier un petit peu.
Oui, il y a Pont-l'Évêque, il y a Beaumont-en-Auge,
le bocage normand.
Tout ça, il y a des endroits merveilleux.
Un bon poulet Vallée d'Auge.
Ah, bon poulet Vallée d'Auge.
Ça, c'est bien, ça. Hein.
Et ma mère fait le poulet farci de manière exceptionnelle.
Quel est le dernier plat que vous avez cuisiné?
Un haddock œuf mollet, pommes de terre épinards dans un bouillon.
Oh, c'est bien ça. Ah oui, non, mais vous cuisinez vraiment.
Enfin, voyons.
Mais voyons. On en a la preuve jusqu'à la fin.
Mais j'ai énormément cuisiné. Maintenant, quand je travaille, je fais des choses assez simples. Mais une purée de carottes et un poisson, voilà, un truc tout simple. Mais sinon, j'ai beaucoup, beaucoup cuisiné.
Et pour terminer, Valérie Bonneton, le mot de la fin, F-A-I-M.
On mange trop.
Eh oui, on confond bien manger, trop manger, c'est ça que vous voulez dire?
Moi, je trouve qu'on mange trop. On n'a pas besoin de trop manger. Parce qu'on se sent tellement mieux quand on mange moins.
Eh ben vous avez
raison. Et bien manger.
Mais on peut être un bon mangeur, un gourmand et manger effectivement.
Moi, je me sens 10 000 fois mieux quand je mange moins.
Eh bien, je vous offre justement le livre de notre invité de tout à l'heure, le docteur Gérard Paco, Alimentation, il faut tout changer. Il parle justement de ça, de la taille des portions et du fait qu'on confonde souvent bien manger et trop manger.
Ben voilà.
Merci Valérie Bonneton d'avoir été une
bonne
vivante à la table des bons vivants.
Merci.
Je rappelle que vous êtes au théâtre actuellement, au théâtre Antoine à Paris avec Danny Boone, une comédie vraiment qui cartonne sur les planches. Valérie Bonneton dans la série Fais pas ci, fais pas ça aussi, évidemment à la télévision. Merci à la bande des bons vivants, Yves Candebord, Olivier Pouls, Marion Sauveur et Jean-Luc Petit-Renaud. Merci à Lucie Lescourou et Julien Amat à la rédaction, notre Jean-Luc Arblade à la réalisation, Marie Jacquet à la programmation. Merci aux asperges vertes que nous avons eues tout à l'heure et que nous avons cuisinées.
Délicieuse.
À la tarte aux pommes de Michael Marion en Normandie. Et merci à vous, amis auditeurs, d'être à l'écoute et d'échanger vos belles idées de plats sur le groupe Facebook des bons vivants. Bon week-end, faites le marché, la cuisine et l'amour aussi. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Laurent, pour une nouvelle table des bons vivants dès 11h. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur europe1.fr.